Misérable Wörth ce matin sur France Inter. Misérable, c'est la crise, et encore la crise. Il faut se serrer les coudes pour faire face à la crise. Mais d'où vient la crise? Les dirigeants de par le monde et le système économique et financier qu'ils soutiennent sont donc totalement innocents ou irresponsables? Et maintenant, c'est à nous maintenant d'être solidaires de leur incompétence ou pire. Il faut se mettre au travail, dit Wörth, pour surmonter la crise. Mais qu'est-ce que je fais tous les matins? J'y vais pas au travail? Et j'en connais qui voudraient bien y aller au travail, et d'autres encore qui vont le perdre leur travail à cause de la crise. Il y a d'autres moyens pour s'exprimer que la grève, dit Wörth, incapable d'en citer. Pour lui, s'exprimer, c'est bosser, et se taire. Ah bon? Eh bien, je dis, je vais pas bosser, et je vais descendre dans la rue. Misérable, Wörth, misérable. Pascal de Soissons.
Oui, bonjour Daniel, c'est Véronique de Saint-Denis à La Réunion. Et d'abord, je suis pas très contente. Parce que, non c'est Daniel Mermier que j'appelle, parce que sur le site de l'émission de vendredi dernier, il y avait une chanson fabuleuse à la fin de l'émission, et on ne sait pas comment retrouver cet artiste. S'il te plaît, aide-nous Daniel. Et sinon, on invite tous les Réunionnais à venir le jeudi 29 à manifester dans les rues, syndicat ou pas syndicat, mais il y a le feu au lac les mecs, même en créolie, il y a le feu au lac, allez venez. Nous, Association Initiative Dionysienne, on y sera avec nos pancartes. Allez, merci Daniel pour ton boulot et à plus.
Bonjour à tous. La mauvaise conscience de l'Occident face à l'Holocauste brouille la vue de nos politiciens et journalistes. La peur d'être traité d'antisémite par la LICRA les amène à reprendre sans plus d'esprit critique l'implacable propagande israélienne. Les Palestiniens paient au prix fort notre culpabilité depuis 60 ans. Alors, oublions un temps qu'Israël soit juif, mais voyons-le comme un État moderne, fer de lance du capitalisme libéral au Moyen-Orient, conquérant, colonialiste et qui perpétue l'apartheid. Il faut cesser, d'autre part, de suivre les dogmes des menteurs Bush et consorts. Remettons à plat les étiquettes de terrorisme. Ou sinon, faisons citer l'officine de la CIA comme terroriste, puis Israël pour ses violations constantes du droit international et l'usage d'armes illicites sur des zones à forte densité démographique. Si l'on veut la paix, il faut la préparer. Classer d'emblée le Hamas comme mouvement terroriste, c'est se fermer toute négociation future. Et ce n'est pas exonérer le Hamas ni de ses responsabilités, ni du délire de certains de ses chefs, que de reconnaître qu'il a été démocratiquement élu et donc a une légitimité. C'est la seule façon de faire évoluer son aile la plus pragmatique. Donc, chers amis, pour un temps, on ne parle plus de l'histoire juive ni de terrorisme, et vous allez voir comme ça nettoie la tête. Jean-Paul de Bretagne.
Salut Daniel, c'est François. Écoute, je t'appelle, comme tu sais, la semaine dernière, je me suis rendu à Paris au siège de France, une usine dans la Somme. Il y a eu un tas de dépressions dans cette boîte, il y a même eu deux suicides. Le délégué syndical s'est fait licencier 4 fois en 4 ans, à chaque fois réintégré par l'inspection du travail. Et en revenant de là, je me suis demandé, mais pourquoi on les poursuit pas, ces patrons-là? Enfin, on aura le temps d'en discuter. Mais le pire, c'est pas qu'on poursuit pas ces patrons-là, c'est qu'en plus, ce sont leurs adversaires qui sont poursuivis. Alors, c'est vrai des syndicalistes qui se résignent pas, c'est vrai des journalistes quand ils publient des biographies non autorisées, et c'est vrai aujourd'hui de l'inspecteur du travail Gérard Filoche. Alors Gérard Filoche aujourd'hui il est poursuivi, toi tu dois pas en avoir entendu parler aux États-Unis, mais il est mis en examen parce qu'il aurait fait une entrave à un comité d'entreprise. Moi c'est une affaire dérisoire, c'est du chipotage mais dont la justice se régale pour des motifs politiques évidemment, et puis la presse aussi s'en régale, le Parisien a enfin parlé de Gérard Filoche une fois qu'il était mis en examen. Donc on se souvient à Amiens, on se souvient qu'il était venu en janvier 2007, il avait galvanisé les foules fakiriennes, et quand on a entendu, quand on a vu l'ardeur qu'il met à attaquer Parisot, Sarkozy et tous ses compères, on comprend qu'il faut le discréditer. Il faut le discréditer aujourd'hui non seulement pour discréditer Gérard Filoche, mais pour aussi décourager ceux qui, militants, inspecteurs du travail, syndicalistes, voudraient suivre sa voie, qui est une voie de combat. Donc voilà, il y a la possibilité de soutenir Gérard Filoche sur un site internet qui est www.solidarité-filoche.fr, www.solidarité-filoche.fr, et là il y a la possibilité de comprendre l'affaire et de signer une pétition en ligne. Voilà Daniel, bah écoute, je pense que toi tu vas la signer en direct des États-Unis et puis moi je la signe en direct de ma Picardie. Salut Daniel, ciao.
Bonjour à tous les auditeurs de Là-bas si j'y suis. Il reste encore quelques places au cinéma Yves Montand à Livry-Gargan, c'est dans le 9-3, pour le mercredi 28 janvier, c'est-à-dire demain à partir de 18h, où deux films seront projetés, Chomsky et compagnie, puis Choron dernière. Les réalisateurs Dan Mermet pour Chomsky et Pierre Carle pour Choron seront présents à cette soirée. Et il y aura un débat après les projections. Dépêchez-vous de réserver dès maintenant au 01 43 83 90 39.
Et non, chers AMG, hélas, il y a décalage et contretemps. Je ne pourrai pas être à Livry-Gargan mercredi soir. Mille excuses, mais je suis retenu aux États-Unis. Mais vous aurez Pierre Carle pour vous tout seul. Et peut-être on va essayer de trouver quelqu'un de l'équipe du film de Chomsky et compagnie pour l'accompagner. Voilà, désolé. Merci pour le message sur cette mauvaise conscience qui inhibe notre regard sur le Proche-Orient, sur les massacres de Gaza et sur la censure par intimidation qui a dominé et qui domine les médias dans ce domaine. Intimidation que fait régner ici aux États-Unis ce qu'on appelle le lobby pro-israélien. Ce n'est pas une expression tabou ici, mais par contre le sujet l'est tabou. Et il y a 2 ans, 2 auteurs, 2 chercheurs, 2 professeurs, Walt et Mersheimer, ont sorti ce livre intitulé « Le lobby pro-israélien ». Ils ont osé aborder en profondeur et avec beaucoup de précision ce thème, et leur livre a ébranlé, a soulevé le couvercle et permis d'ouvrir le débat et d'entraîner un certain nombre de modifications, d'évolutions, il faut bien dire, dans ce domaine. Voilà pourquoi nous sommes là, pas seulement, mais c'est quand même beaucoup autour de ce thème-là que nous travaillons, ce qui explique mes excuses pour les amis de Livry-Gargan, ce n'est que partie remise. Aussi à noter le message de François Ruffin, et puis bien sûr, la préparation du 29, la grande affaire, la grande journée. Alors, pour cette journée, justement, à vos portables, on avait inventé il y a très longtemps le reportable, le reportage avec le portable. Eh bien, à vos portables, vous faites le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37 quand vous êtes dans la manif, vous enregistrez les sons, vous faites passer les sons qui sont autour de vous, et puis vous faites des commentaires. Attention, bien sûr, à ne pas hurler trop fort, pas trop de sons trop aigus, enfin c'est un petit peu, voilà, c'est un peu au bonheur la chance, mais on peut avoir de très beaux messages, de très beaux reportages avec les reportables pour le lendemain du 29, pour le 30 donc. Voilà. Aujourd'hui, un grand classique de la basse égyptienne, c'est de circonstance, Le pouvoir est dans la rue, avec l'historienne Danielle Tartakovsky, pour bien comprendre une fois de plus que c'est pas des délinquants qui vont arpenter et marteler les pavés partout en France, mais ce sont des Français, et en allant dans la rue, en descendant dans la rue, on s'accapare l'espace public, on occupe l'espace public, mais c'est un acte évidemment à la fois citoyen, républicain, démocratique, et beaucoup plus démocratique, et beaucoup plus républicain, et beaucoup plus citoyen qu'on ne le suppose nous-mêmes en manifestant, et que le dit certains ministres ou secrétaires d'État qui vous ont rendu absolument furieux. Voilà. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Jour de colère à Madagascar. Il semblerait que nos pauvres amis malgaches, qui ont déjà réussi à se débarrasser de Didier Ratsirak, le sanguinaire dictateur, ne soient pas mieux tombés avec Marc Ravalomanes. 10 morts à Tana, des magasins brûlés. Merci Daniel de nous en parler. Merci beaucoup.
Oui, bonjour à tous. Le repère de Paris 14 recevra un économiste, Lim Wang Nok, pour nous parler sur le thème « Faut-il sauver le capitalisme ?». Alors, ça se passera au Moulin à Café, qui se trouve 9 Place de la Garenne, métro Pernetti, dans le 14e arrondissement de Paris, à 20h30. Voilà, venez nombreux. Merci, au revoir.
Bonjour Daniel et tous les auditeurs de là-bas si j'y suis. C'est Charles Lavia de Nîmes. Dans le cadre de la commémoration de l'anniversaire de Martin Luther King, je voudrais inviter tout le monde qui peut se rendre à Montpellier à la projection du film Une force plus puissante sur l'histoire de la non-violence. La projection sera suivie d'un débat sur l'actualité du rêve de King, de Martin Luther King à Barack Hussein Obama. Où en est le rêve? C'est ce soir, mardi 27 janvier, à 20h, à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc, à Montpellier. Si vous voulez un renseignement, appelez le 06 86 97 96 28. Merci et au plaisir de débattre avec vous ce soir.
Alors j'appelle Pierre Lantenac. Pierre Lantenac. Pierre Lantenac.
Tous les ouvriers devraient apparaître.
Allô, Pierre Lantenac.
L'antenne?
Oui, tu l'as.
Eh bien, Pierre Lantenac ici. Je suis toujours rue Saint-Jacques et je dois dire que la tension qui tout à l'heure déjà était très grande, cette tension ne l'a pas baissée. Les étudiants sont en train de relever une autre barricade à l'intérieur de la rue Saint-Jacques afin d'éviter d'être tournés. Quant à la rue du Sac, eh bien, je crois que c'est l'axe principal de
This is me. On est arrivé en l'an 2000, on va sur la Lune. Vous vous rendez compte un peu? Où est-ce qu'on est là?
Salut, c'est Daniel Mermet avec Daniel Tartakovsky. Là-bas, si j'y suis, le pouvoir est dans la rue.
Flight number 2, arriving at
La barricade ferme la rue et ouvre la voie aujourd'hui. Jour de manif dans la basse. J'y suis, la manif, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Qui l'a fait? Depuis quand? Après tout, on raconte l'histoire avec des dates de bataille. Pourrait-on raconter l'histoire avec des manifs? Insurrection, émeute, attroupement, rassemblement. Si on dit manif, vous pensez à Nation, Bastille, République, mais il y a aussi Jeanne d'Arc, par exemple. Il y a aussi les Champs-Élysées, gauche, droite, classe ouvrière ou bourgeoisie. On manifeste beaucoup dans notre cher pays, égoutiers, policiers, pompiers, magistrats, infirmières ou retraités, ou Gay Pride. C'est un théâtre, c'est un rituel, avec banderoles, slogans, pancartes, sonos, déguisements, pièges à télé. On manifeste beaucoup chez nous, mais ailleurs aussi. Souvenez-vous, Tiananmen, 89, Belgrade, hiver 96, Séoul, 95, Belgique, 96, Buenos Aires, 95, Ushuaïa, oui, on y était en 1995, à Moscou, en 91. Souvent, ensemble, avec vous, nous étions à la manif du CIP au sans-papiers, du plan Juppé aux marges de chômeurs. Qu'est-ce qu'on veut manifester quand on manifeste ? Force de désordre contre force de l'ordre, le social contre le national, le peuple contre le pouvoir, en croyant se battre contre les politiques. La manif est un fait éminemment politique. C'est, pour simplifier beaucoup, ce que dit Danielle Tartakovsky, qui est historienne, qui est professeure à l'université de Paris 8, et qui a publié en 98 un ouvrage passionnant sur les crises politiques et manifestations en France, qui s'appelle évidemment « Le pouvoir est dans la rue ». C'est avec elle qu'on va passer cette heure, donc cette heure de manif, en se demandant s'il n'y a pas un art véritablement de la manif, et puis si après tout, tout ça n'est pas simplement un signe de bonne santé démocratique. On le sait, ce n'est qu'un débat.
Levez-vous, après.
Comment vous définissez votre travail ?
Mon travail porte essentiellement depuis quelques années sur les formes non institutionnelles du politique, mais des formes qui, pour être non institutionnelles, sont néanmoins capables d'infléchir le politique au plus haut point. Les manifestations, les fêtes, quelques enterrements, le mouvement associatif, bien sûr, aujourd'hui.
Dans votre livre « Le pouvoir est dans la rue, crise politique et manifestation en France », vous commencez par un constat sur les générations, mettons, depuis la guerre. Il y aurait une génération, bon, il y a évidemment la génération de la libération, il y a la génération de l'Algérie, il y a la génération 68, la génération Mitterrand, et puis depuis 80, il y a une génération qui n'a plus ses grands repères, comme ça, ses grandes dates, et qui est la génération manif.
Et qui entre en politique à la faveur de manifestations qui deviennent très constitutives d'un certain rapport à la politique et de certaines formes d'organisation.
Alors, on peut raconter, vous êtes historienne avant tout, on a pu raconter l'histoire avec des dates de bataille. Est-ce qu'on pourrait raconter l'histoire avec les manifs, avec des dates de manifestations ?
On pourrait raconter une histoire,
pas l'histoire
des manifestations. Une. La question étant de savoir dans quelle mesure cette histoire spécifique des manifestations se confond avec notre histoire avec un grand H. Et à certains moments donnés de notre histoire contemporaine, il est clair qu'il y a forte coïncidence. Bon, certains moments tournants de notre histoire politique contemporaine, 1934, 1968, 1995 peut-être, sont rythmés par de grandes manifestations de rue qui ont quelquefois joué un effet absolument déterminant dans les formes de développement et de résolution des crises.
On nous laisse pas le droit d'avoir des rêves. Le gouvernement, il nous tue nos rêves.
On nous donne la possibilité de rêver. Quand on commence à rêver, on nous coupe tout sous l'herbe.
Avec ton décret, et toi, va t'en fumer le pétard, va te coucher, avec ton décret, tous ensemble, ouais.
Il y a toujours eu des cortèges dans la rue. Les cortèges sont quelque chose d'international et sont quelque chose qui traverse absolument toutes les périodes. Donc on pourrait dire, il y a toujours eu des hommes dans la rue pour dire quelque chose dans la rue. Bon, en tout cas, il est bien clair que le 18e siècle français, le 19e siècle français est marqué par des émeutes, des insurrections qui se déroulent dans la rue. Dans quelle mesure peut-on introduire un fil continu entre ces mouvements de la rue et la manifestation ? Je pense personnellement qu'il faut introduire un phénomène de rupture et que la manifestation, au sens où nous en parlons aujourd'hui dans la vie politique contemporaine, naît avec le siècle.
Avec notre siècle.
Le siècle qui meurt, c'est-à-dire le 20e. En ce sens que on voit émerger, il n'y a pas d'acte de naissance, il y a un processus qui amène à passer d'un type de mouvement d'occupation de la rue à un autre type de mouvement qu'on peut appeler manifestation. On passe de formes d'action qui se donnaient comme des formes d'action directes. On descendait dans la rue pour obtenir du pain tout de suite, pour mettre à bas la tyrannie et pour détruire la Bastille.
89.
Donc, avec une volonté d'agir ici et maintenant. Et par là même, on descendait face à la cible, contre la cible. La manifestation...
Là, c'était une insurrection, là, c'est une émeute.
Quel que soit le nom qu'on lui donne, parce que quelques-unes ne réussissent pas et donc ne restent pas dans l'histoire comme des insurrections. On parle de mouvement de la rue. Donc tous les mouvements de la rue n'ont pas capacité à devenir des insurrections qui réussissent ou qui sont aussi spectaculaires que la commune. Mais ce qui me paraît distinguer notre rapport contemporain à la rue, c'est que depuis près d'un siècle, la manifestation est un moyen de penser autrement le temps du politique. On descend dans la rue pour grouper des forces qui énoncent une volonté, en sachant très bien que cette volonté, elles n'ont pas la capacité de la faire aboutir ici et maintenant. Et donc la manifestation, c'est une manière de gérer le détour nécessaire pour aboutir. C'est la prise de conscience que la plupart du temps, les rapports de force ne sont pas suffisants pour l'emporter ici et maintenant, et qu'il faut donc regrouper des forces, les capitaliser, faire en sorte que ces forces puissent transmettre leurs acquis partiels, puissent survivre à des défaites, quelquefois sanglantes, et continuer. Je crois que la manifestation est un moyen de faire circuler les acquis, les victoires partielles, la mémoire, l'histoire, et par là même de construire de la politique dans la longue durée.
Attention, attention François, il y a un pavé.
Français, Française, je vous ai tout pris ou je vous ai compris. Le jour de grève est arrivé, la paix arrive, la préparation pour la transformation d'un monde plus humain où il n'y aura pas d'exploitation, où il n'y aura plus cette merde académique organisée, où nous serons vraiment frères sur la terre avant de devenir sous la terre. Le monde est mûr, frère, il faut mûrir. Nous pouvons nous exprimer. Quelle belle chose pour une fois. Parler dans les rues, circuler sans être embêté, sans être ennuyé, sans être interpellé. Vos papiers, vos papiers, vos papiers. Toujours les papiers, les papiers, les papiers. Oh, les papiers, les papiers, les papiers.
Petit raccourci de notre histoire par quelques slogans. D'abord la voix de Mouna, vous avez reconnu, en 68, lors des manifestations de 68 et de ces petits cette foire à la parole qu'a été mai 68. Et puis le tous ensemble, ouais, de 95 pour Daniel Tartakovsky. La manif, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, c'est penser autrement le temps politique, c'est faire de la politique. Alors vous vous dites, bien sûr, c'est la basse-édition, on a compris. Et non, il n'y a pas que ce genre de manif-là. Il n'y a pas que ce genre de manif-là. Pour Daniel Tartakovsky, il y a au moins quatre genres de manifs différents. Qu'est-ce qu'on fait quand on manifeste? On se compte? On existe?
On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. J'avais essayé de réfléchir à une typologie des manifestations, à comprendre un petit peu comme un idéal type. Hein. Aucune manifestation n'appartient jamais à telle ou telle catégorie. Il me semblait que dans un pays comme le nôtre, et compte tenu des rapports que les révolutionnaires de 89 ont entretenus avec la rue, on a très grossièrement quatre grands types de manifestations. Il y a les manifestations où on construit l'image du groupe. C'est ce que j'appelle la manifestation procession. C'est la fête révolutionnaire, mais c'est le 1er mai, tout aussi bien. C'est la montée au mur des fédérés, c'est la fête de Jeanne d'Arc.
On se célèbre là.
On se célèbre, et on se célèbre en empruntant aux formes de la fête nationale, le 14 juillet. Jules Guesde, ou un guédiste, ce n'est pas Jules Guesde, disait peu de temps après l'invention du 1er mai, le 1er mai sera un contre-14 juillet. Donc faire comme le pouvoir républicain, mais faire autrement pour exister en tant que groupe distinct. De la même manière que Jules Vallès disait de la montée au mur des fédérés dans le cimetière du Père-Lachaise que ça serait la Toussaint des travailleurs. Bon, donc construction du groupe, c'est incontestable, et cela vaut tout aussi bien pour la gauche, pour le mouvement ouvrier, que pour une extrême droite qui ne se reconnaissait pas dans la fête républicaine après la naissance de la République, donc la droite et Jeanne d'Arc. On peut manifester pour dire quelque chose, pour interpeller les pouvoirs publics, mais aussi bien le patronat, mais aussi bien un consulat étranger, c'est ce que j'appelle la manifestation pétition. Qui peut s'accompagner d'un dépôt effectif de pétition, mais qui peut tout aussi bien être un message qu'on transmet par la voie de slogans ou par d'autres voies. Mais l'objectif est de se faire entendre. La manifestation que j'appelle insurrection, ce qui ne signifie pas qu'elle soit insurrectionnelle et violente, elle peut le devenir. C'est la manifestation où l'autre est appréhendé comme une cible à abattre le plus tôt possible.
Exemple ?
Exemple, bien évidemment...
34,
mais là on a un cas limite puisqu'on bascule pratiquement dans l'insurrection à proprement parler. Mais pour prendre des exemples qui sont moins limites et moins violents, manifestation devant un consulat étranger pour protester contre l'assassinat de tel ou tel militant ou contre l'exécution de tel militant, il n'y a pas de discussion possible avec l'autre. On vient exprimer une réprobation, et ça peut d'ailleurs passer par des pierres lancées contre des carreaux. Enfin, c'est pas forcément la prise du palais d'hiver, mais ça peut passer par des actes qui sont des actes témoignant d'une violence ou d'un rejet. Et enfin, le quatrième et dernier type, il est extrêmement exceptionnel, et c'est un peu celui qui donne naissance au titre de mon ouvrage, « Le pouvoir est dans la rue ». Dans ce pays qui est le nôtre, c'est un pays qui a connu Valmy, la levée en masse, au moment de la Grande Révolution française, il arrive que le pouvoir ait besoin d'en appeler à la rue pour défendre quelque chose. Le cas le plus beau et qui m'a un petit peu donné l'idée de ce titre, qui était un titre à contre-pied,
étant dans la rue.
La manifestation du 30 mai 68, où De Gaulle et les gaullistes, qui ont pourtant le pouvoir, descendent dans la rue. Et grâce à cette manifestation, ou à cause de cette manifestation du 30 mai 68, donc la manifestation gaulliste des Champs-Élysées, vont être capables de mettre un terme presque final à la crise ouverte au début mai.
Effectivement, la voiture du général de Gaulle, précédée des motards, vient d'accéder juste devant l'hémicycle, face au podium. Et sous les acclamations, il gravit lentement la tribune. Il accède maintenant, les bras levés en V, selon son geste familier, devant la foule qui acclame. Et devant les anciens combattants des deux guerres, devant les représentants des forces françaises libres et des forces de l'intérieur, devant le peuple de Paris, devant les corps constitués, devant les représentants des assemblées, devant tous, il va maintenant... à nous tous, proposer.
C'est en un temps où il lui fallait se réformer ou se briser que notre peuple, pour la première fois, recourut à la République. Jusqu'alors, au long des siècles, l'ancien régime avait réalisé l'unité et maintenu l'intégrité de la France. Mais tandis qu'une immense vague de fond se formait dans les profondeurs, il s'était montré hors d'état de s'adapter au monde nouveau. C'est alors que au milieu du drame national et de la guerre étrangère, apparut la République. Elle était la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté, l'espérance de la justice. Elle est restée cela à travers les péripéties agitées de son histoire. Et aujourd'hui, autant que jamais, nous voulons qu'elle le demeure.
Mai 58, place de la République, à Paris, le général de Gaulle incarne bien ce moment d'une manif, un type de manif où le pouvoir est dans la rue. C'est pas du tout la rue qui a le pouvoir, c'est le pouvoir qui va se légitimer par la rue. Donc c'est une des formes de la manifestation du pouvoir qui descend dans la rue lui-même, la manifestation insurrection, la manifestation pétition et la manifestation célébration. C'est la typologie que Daniel Tartakovsky, notre invité, cette façon de voir la manifestation. On voit que c'est pas rien, c'est pas seulement des vagues hurlements au coin d'une petite émission comme ça le soir aux 20h. C'est beaucoup plus que ça. C'est un fait politique et de gauche comme de droite, de riche comme de pauvre, tout le monde manifeste.
Attention, attention François, il y a un pavé.
En fait, la manifestation a été presque constitutivement un phénomène pluriclassiste et un phénomène de gauche comme de droite. Et quand on dit la droite, c'était une droite très particulière, dès lors que la droite française ne disposait pas de grands partis de masse capables de manifester, capables de ce type d'action politique. Jusqu'à des dates relativement récentes, mais ce sont pas les catholiques qui, au moment de la bataille pour la séparation de l'Église et de l'État, sont beaucoup descendus dans la rue, devant les portes des églises, pour empêcher que les inventaires ne soient dressés dans les églises. Et puis ces catholiques, on les retrouve très massivement dans la rue en 1924-25, au moment où le gouvernement de cartel des gauches décide de parachever la politique de laïcisation. Les manifestations catholiques de 25-26 sont les plus puissants rassemblements quantitativement que la France ait connus dans les années 20.
Ouais.
Donc, la droite, sous une forme extrêmement large, descend moins sous...
C'est pas nécessairement... Catholique, c'est pas nécessairement de droite.
En 25, ils le sont. Non, bien sûr, ils ne le sont plus. En 25, ils le sont, ouvertement, et ils engagent la bataille contre la politique d'un gouvernement qui s'appelle le cartel des gauches. Donc, on a un conflit gauche-droite qui se structure sur la question de la laïcité. Ça, c'est lié à toute une histoire nationale. Effectivement, la droite est constamment à redéfinir et les formes de la mobilisation de droite sont tout à fait variables. On pourra en dire un mot sur 1934. Ce qui est sûr, c'est que la droite, les droites, descendent moins souvent dans la rue que ne le font les gauches et le mouvement ouvrier, mais que quand elle y descend, c'est souvent dans des mouvements qui sont quantitativement très puissants et qui sont susceptibles d'effets politiques très importants.
Cherchons dans notre mémoire collective les précédents de ce genre, les jours où des foules énormes ont envahi les rues de Paris. Pour s'en tenir à la Ve République, on songe aux obsèques des victimes du métro Charonne en 1962, à la manifestation du 13 mai 1968 et à sa réplique de droite le 30 mai suivant. C'est tout. Ce matin, il faut ajouter à ce palmarès le rassemblement d'hier en faveur de l'école privée, ou plutôt, thème simplificateur mais hautement mobilisateur, la défense de la liberté. 850 000 personnes selon les estimations de la préfecture de police, 1 500 000 selon les organisateurs. Pendant 12 heures, de 9h du matin à 9h du soir, 4 défilés, partis des 4 grandes gares parisiennes, ont convergé vers la place de la Bastille, une manifestation calme, sous un ciel changeant, avec des slogans le plus souvent limités à la défense de l'école privée. Les responsables de l'enseignement catholique ont tenu leur pari, ils ont parfaitement su organiser et canaliser le rassemblement de plusieurs centaines de milliers de manifestants sans le moindre incident. Des débordements ont eu lieu, mais après la fin de la manifestation, Encore sont-ils le fait d'éléments qui n'ont que de lointains rapports avec les partisans de l'enseignement privé, quelques dizaines de jeunes gens d'extrême droite, crâne rasé, treillis, blouson de cuir, gourdin à la main et boulon plein les poches. Une cinquantaine d'entre eux ont tenté de paralyser la circulation sur les Champs-Élysées vers 19h30. Ils ont été rapidement dispersés. Au quartier latin, en revanche, les incidents se sont prolongés tard dans la nuit. Les policiers ont eu beaucoup de mal à neutraliser des groupes très mobiles qui tentaient de dresser des barricades avant d'y mettre le feu. Une cinquantaine de personnes ont été interpellées. 8 policiers ont été blessés.
Alors, je voudrais qu'on parle aussi du rituel, du théâtre de la manifestation. Les banderoles, les slogans, les chants, la déambulation. Hein, on va de les lieux saints, que ce que vous appelez les lieux saints, c'est-à-dire que si on va de la nation à la République, c'est pas ou si on va au Père Lachaise, enfin si on va au mur des fédérés, c'est pas le même sens que si on est devant la statue de Jeanne d'Arc ou dans un autre endroit dans Paris, par exemple dans les déambulations. D'où viennent ces banderoles, ces slogans, ces chants? Je me dis que ça venait peut-être des bannières, des ordres ouvriers ou des corporations.
Oui, ça serait tentant. On avait été amené à réfléchir avec des collègues étrangers, on avait été amené à comparer les 1er mai en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique et en France. Et on s'apercevait que finalement, les marquages des manifestations ouvrières françaises étaient beaucoup moins spectaculaires et beaucoup moins beaux d'un point de vue plastique et beaucoup moins nombreux que ceux des manifestations des pays voisins. Tout à l'heure, je parlais du 1er mai dans son rapport au 14 juillet. On est dans un pays où la symbolique républicaine s'est très tôt, très vite constituée. Le 14 juillet, bien sûr, mais également le drapeau tricolore et la Marseillaise, avec le poids de ces symboles dans l'histoire politique nationale et dans les combats nationaux, le mouvement ouvrier français avait besoin de se démarquer. Et ça n'est pas par hasard si c'est ce mouvement ouvrier français qui invente des symboles destinés à devenir internationaux, l'international et le drapeau rouge. Alors c'est à la fois moins spectaculaire qu'ailleurs, parce qu'on répond à un drapeau par un drapeau, on répond à un chant par un chant. Au total, la symbolique française, jusqu'à des dates, jusqu'aux années 80, 1980, s'organise autour de 2-3 chants, 2-3 symboles. Donc c'est relativement pauvre. Mais c'est relativement pauvre parce que on répond à ce symbole unifiant qui a été le drapeau tricolore et la Marseillaise. Jusque dans les années 30, jusqu'au Front populaire, les marquages des manifestations sont beaucoup moins importants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors, ça tient à plusieurs choses. Ça tient d'abord à ce que la tolérance des manifestations est un phénomène qui met beaucoup de temps à s'établir. Et en particulier à Paris, jusqu'en 1934, les manifestations sont très exceptionnellement tolérées. Il est bien évident que c'est plus facile de déployer une mise en scène spectaculaire dans l'espace public quand on est toléré que quand on ne l'est pas. Pendant la guerre d'Algérie, quand les manifestations étaient non seulement interdites mais dangereuses, il est évident que dans le meilleur des cas, les manifestants parvenaient à déployer une banderole sur laquelle on lisait « Paix en Algérie », point final. Donc la capacité de mise en espace du politique, de dramaturgie politique, elle est quand même liée au phénomène de tolérance qui ont mis un certain temps à s'instaurer. Quant à l'appropriation de la symbolique de l'espace, la statue de Jeanne d'Arc, le mur des fédérés, la statue de la République, là aussi c'est un phénomène relativement lent. Le marquage symbolique parisien, il est là depuis les années 1880-90. En 1890, toutes les grandes statues parisiennes sont à peu près en place. Il y a un phénomène de saturation. On a parlé d'un passage de la statuomanie à la statuophobie. Dès lors qu'il n'y avait plus l'ombre d'un espace qui était disponible.
C'est la République qui se symbolise, qui se montre, qui se démontre.
C'est la République, absolument. Et d'une certaine manière, au tournant du siècle, après l'affaire Dreyfus, moi je dirais très volontiers qu'on bascule d'une situation où on marquait l'espace par la statuaire à une situation où ce sont les manifestations qui vont devenir les formes de marquage de l'espace.
On descend dans la rue parce qu'on est contre le pouvoir, ou contre la politique, on croit qu'on est contre la politique, et en fait, on fait de la politique en descendant dans la rue.
La manifestation est éminemment politique. C'est ça. Éminemment, elle l'est toujours, y compris s'agissant de sujets qui n'ont pas de rapport direct avec le pouvoir ou sa politique. Elle l'est toujours d'abord parce qu'elle se déroule dans l'espace public. Beaucoup de grèves s'accompagnent de manifestations. C'est ce que moi j'appelle les manifestations d'appendice. Mais la grande différence entre la manifestation et la grève, c'est que la manifestation porte le débat dans l'espace public, sur l'espace public, et qu'à partir de là, elle interpelle nécessairement la totalité du corps social.
Première, deuxième, troisième génération, Nous sommes tous les enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération.
Nous sommes tous les enfants d'immigrés.
Signe de bonne santé démocratique, signe de volonté d'intégration, signe de politique, en tout cas, même si c'est hors, évidemment, par définition, des institutions, aujourd'hui, la manif. Alors on peut dire, mais à quoi ça sert ? Moi je descends dans la rue, ça sert à rien, ça n'a rien changé, j'y retournerai plus. Eh ben, ça se passe pas comme ça. Ça c'est un raisonnement, on va dire, utilitariste, qui voudrait un résultat comme ça, une simple et pauvre relation de cause à effet. La manif et ceux qui manifent, consciemment ou pas, peu importe, eh bien, produit des effets, mais indirects. C'est le principe du rhizome, c'est-à-dire que quelque chose se produit et puis semble disparaître, et un jour ou l'autre ressurgit sans qu'on ait pu le prévoir, ça ressort. Et c'est après qu'arrivent les historiens, dont tout le mal qu'on peut dire, c'est qu'ils savent parfois, quelquefois, prévoir le passé. C'est pas le cas de Daniel Tartakovsky, qui a consacré tout un livre à la manifestation, aux crises politiques et à leurs relations avec les manifestations de rue dans notre beau pays. Le pouvoir est dans la rue.
Tous ensemble.
Dans la manifestation, il y a un rapport entre la société civile, le peuple, enfin selon les époques, on va donner des qualificatifs différents aux gens. Et puis de l'autre côté, il y a le pouvoir quand même. Hein. Il y a le social et le national. C'est deux choses qui s'opposent. En quoi est-ce que la manifestation influe le pouvoir ? Est-ce que le pouvoir tombe ? Parce qu'on est dans la rue, on est en train de gueuler. Bah. Ah, bah, mais c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il tombe ? Est-ce qu'on l'a vu déjà le pouvoir tomber ?
Alors, je crois que ce qui différencie fondamentalement la manifestation des émeutes, insurrections, révolutions, c'est le même espace, c'est la rue. Mais c'est que la manifestation permet de gérer des crises à l'intérieur du système politique existant. Donc, si par pouvoir, on entend tel ou tel ministre, oui, ça arrive, et ça arrive en particulier depuis les années 80. Si par pouvoir on entend un gouvernement, ça a pu se produire la crise de 1934, encore que c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'en 1934, on a eu démission d'un gouvernement régulièrement investi à gauche sous la pression d'une manifestation de l'extrême droite. Donc ça peut se produire, mais précisément, on est dans un cas limite où la manifestation cesse d'être une manifestation pour devenir quelque chose d'autre. En principe, la manifestation est un moyen de gérer les conflits, en France en tout cas, est un moyen de gérer les conflits à l'intérieur du système existant. La manifestation véhicule de la symbolique de part et d'autre. Il y a des codes qui sont tacitement admis par le pouvoir et par les manifestants, qui ne sont écrits nulle part, qui sont toujours susceptibles de remise en cause. On peut toujours mourir dans la rue. Mais c'est un moyen de dire autrement et de faire entendre. Est-ce qu'on peut considérer que la dissolution de l'Assemblée nationale par Chirac est le résultat du mouvement de 95 d'une certaine manière, je dirais oui. Je dirais que on a un effet politique différé de la manifestation de 95 avec les résultats que nous connaissons. Mais il est bien évident qu'il y avait quantité d'autres causes que les mouvements de 95 qui ont amené Chirac à dissoudre l'Assemblée nationale et à procéder à ces élections anticipées. Donc des relations avec le politique de façon tout à fait centrale, mais pas de rapport direct.
Si bien que quand on descend dans la rue, on ne sait pas exactement les effets que ça produira.
Moi, je distingue fortement l'intention des manifestants et les effets produits. Prenons la crise de 1934. Il y a eu en 1934, l'extrême droite descend dans la rue. C'est le jour de l'investiture.
6 février 34,
de Daladier, un radical. Daladier obtient une très forte majorité de voix à la Chambre des députés. La manifestation tourne à l'émeute et finalement il choisit de démissionner alors qu'il a été investi. Bon, donc d'une certaine manière, la rue, pour la première fois depuis l'histoire de la République, a eu raison d'un gouvernement et c'est la droite qui revient au pouvoir. Il y a une commission d'enquête, parce qu'il s'est passé des choses graves. Il y a des morts. Il y a une vingtaine de morts. Il n'y en avait jamais eu autant dans les rues de Paris depuis la Commune de Paris. Donc l'échelle, évidemment, n'est pas la même, mais c'est la première grande manifestation très violente de l'histoire de la République.
Tout se passe sur le pont de la Concorde.
Tout se place devant la Chambre
des députés. Devant l'Assemblée nationale. Oui, absolument. On disait Chambre des députés, oui.
Alors, vous, notre Assemblée nationale. Dans la commission d'enquête, on demande à chacune des formations en présence... que vouliez-vous faire? Et ils viennent tous dire, nous avons fait exactement la même chose que les jours précédents ou que les mois précédents, et c'est pas faux. C'est pas faux. La commission d'enquête se demande s'il y a eu complot, s'il y a eu négociation entre ces organisations, si elles voulaient renverser la République. Elles n'arrivent à rien de très probant. Il n'y a pas eu de complot. De toute façon, ces organisations ont des objectifs très différents les unes des autres. Bon, le résultat produit, c'est quand même la capitulation d'un gouvernement devant les meutes de rue, avec de très graves conséquences pour l'avenir du Parti radical, et je dirais à terme des effets pervers, puisque le Front populaire finira, au travers de quelques épisodes, par sortir de cette crise ouverte en février 34. Je dirais très volontiers que le 6 février 34 produit, après quelques délais, le Front populaire, et que ça n'était évidemment pas dans l'intention des acteurs du 6 février 34.
Autre type de manifestation, la libération de Paris. Là, c'est un autre type de manifestation. Est-ce qu'on peut comparer ce que vous venez d'évoquer, les manifestations de 34 et la libération et cette fête au moment de la libération de Paris? Est-ce que vous appelez ça une manifestation, une fête?
Vous parlez de la descente des Champs-Élysées derrière de Gaulle. Pour moi, j'appelle ça une manifestation de souveraineté. C'est une fête de souveraineté, en ce sens que le pouvoir organise sa mise en scène dans l'espace public, comme le 14 juillet. Mais cette fête de souveraineté devient une manifestation parce que la foule, le peuple, les gens conçus pour être spectateurs de cette descente officielle des Champs-Élysées s'inscrit derrière le cortège officiel, envahit tout l'espace public et manifeste derrière de Gaulle.
Le général de Gaulle vient de terminer son discours, les hymnes nationaux viennent de retentir à la TSF et en bas du bâtiment de la radio du 118 Champs-Élysées, ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont groupées pour attendre les dernières nouvelles. Tout le monde entend la Marseillaise que vient de diffuser la radio. La circulation sur les Champs-Élysées est absolument interrompue. Les MP et les agents font ce qu'ils peuvent pour endiguer le flot des voitures. Je crois que mieux des paroles, l'enthousiasme de la foule vous donnera une idée exacte de ce que toujours dit l'enthousiasme du peuple de Paris. Rien ne manque à la fête, le soleil est resplendissant, les avions des armées alliées prennent en enfilade les Champs-Élysées, toutes les voitures sont décorées de drapeaux français et américains, et enfin retentissent les sirènes que les Parisiens attendent depuis au moins 48 heures. C'est la fin de la guerre pour Paris! Les papiers tricolores bleu, blanc et rouge descendent de tous les balcons. Des cortèges se forment sur la chaussée des Champs-Élysées qui s'acheminent lentement et en bon ordre tout de même vers l'Arc du Triomphe. Dans cette foule innombrable qui est à mes pieds, car je suis pour l'instant au premier étage du bâtiment de la radio des Champs-Élysées, du 118 Champs-Élysées, c'est-à-dire juste en face de la station Georges V, des drapeaux de toutes nationalités ont fait leur apparition, toutes les nations des Alliés. Des monomes sont en train de se former, des soldats américains avec des wax remontent en farandole les Champs-Élysées. Toutes les voitures font donner leurs klaxons, les jeeps, les camions, les voitures civiles. C'est absolument du délire, le jour de la paix à Paris sera fêté dignement comme il se doit. Des barrières ont été installées le bord des trottoirs, mais ces barrières sont vraiment un obstacle trop fragile pour l'enthousiasme du peuple parisien aujourd'hui. Il y a bien longtemps qu'elles sont par terre, que tout le monde est sur la chaussée, que tout le monde est sur le trottoir, que tout le monde crie sa joie avec une conviction, une ardeur certainement jamais égalée jusqu'à ce jour. Je n'ai pas eu la chance d'assister à l'armistice de 1918, mais je crois que la joie de Paris aujourd'hui à l'armistice de 1945 n'aura rien à envier à celle de 1918. Tout le monde s'embrasse dans la rue. Les soldats américains sont pris d'assaut, les soldats français, les soldats anglais. Tout le monde participe aujourd'hui à la fête. Une forteresse volante vient de prendre en enfilade de l'avenue des Champs-Élysées presque, je n'oserais pas dire en rase-motte, mais plus exactement en rase-toit. Les sirènes continuent à retentir. Vous savez que le signal convenu est deux temps, deux sons continus de 3 minutes. Et la foule maintenant se met en mouvement lentement, quittant la devanture, plus exactement la façade de l'établissement de la radio, pour remonter en criant sa joie vers l'Arc de Triomphe.
Alors évidemment, des documents bouleversants. On fait de plus en plus attention à nos archives, nos archives sonores. Évidemment, des documents comme ça sont nous bouleversent le cœur, non seulement parce qu'on aime la radio qu'on en fait, mais parce que c'est un très grand moment, de très très grands moments, où l'émotion se mêle à la raison, où on est l'histoire, on fait l'histoire, on est dans le cœur même de l'histoire, et on le sait, on le sent. Alors même si là il s'agit de plus de, effectivement, ce que dit Daniel Tartakovsky, plus de célébration que d'une véritable action. Mais la manifestation revêt ses différents caractères, et là on voit comment c'est pas seulement quelques nostalgies que les uns ou les autres pourraient avoir d'une manif auquel, ou de plusieurs manifs auxquelles ils ont pu participer, mais c'est bel et bien petit à petit de slogans en chant, de marches en coup de cœur, en émotion, que notre histoire, qu'on le veuille ou non, se construit.
Attention, attention François, il y a un pavé.
Alors un autre cas, évidemment, on ne peut pas ne pas en parler, c'est 1968. C'est un grand moment de la rue, un grand moment symbolique de la rue, qui s'inscrit aussi dans une mémoire des manifestations, notamment de la Commune, avec les barricades, avec il y a une référence à l'histoire de la manifestation.
Alors, ce qu'on appelle en France les grandes manifestations, c'est une formule qui surgit souvent quand on dit il y a une grande manifestation. Bon, bien sûr, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de monde, mais je crois que la notion de grande manifestation, et 68 en a évidemment été l'occasion par excellence, c'est moins la manifestation qui réunit beaucoup de monde, même si le nombre fait partie
du jeu, c'est très important,
que la manifestation qui est capable de réactiver l'histoire. Et alors, en 68, on a effectivement brusquement une réémergence de toute une histoire que les politiques croyaient remisée au magasin des accessoires. Cette barricade qui brusquement, effectivement, ferme la rue mais ouvre la voie. La mémoire de 36, toutes les mémoires, ou presque toutes les mémoires, CRSSS, qui ressurgit sur les murs. Alors, ce que les étudiants de 68 ne savent sans doute pas quand ils écrivent sur les murs CRSSS, c'est que CRSSS, on le trouve dans les corons miniers en 48.
Ah.
Dans les grandes grèves dites insurrectionnelles de 48. Donc, il y a des espèces de circulation souterraine, des formes d'occupation de la rue. La forme barricade disparaît, puis ressurgit un jour. Certains mots d'ordre disparaissent, puis ressurgissent, au point que ceux qui en usent croient souvent les avoir inventés.
On parle constamment
de l'invention des formes. J'ai un collègue qui a travaillé sur les manifestations lyonnaises, Vincent Robert, au 19e siècle. Il a trouvé des sit-ins à Lyon dans les années 1830, à part que ça s'appelait évidemment pas comme ça. Bon, donc 68, effectivement, réémergence soudaine de l'histoire, et avec quels effets ? Parce qu'on a là un bel exemple de ces moments de l'histoire où la manifestation produit des effets qui n'entraient absolument pas dans les rêves les plus fous des organisateurs. Alors j'en prendrai deux exemples. Bon, c'est évidemment les barricades de la rue Gay-Lussac qui vont brusquement cristalliser tous les malaises latents dans le pays pour induire ce très puissant mouvement qui est le mouvement de mai-juin 68. Donc le rôle de la barricade, tant qu'il permet à des séries qui n'auraient jamais dû se rencontrer, de brusquement se rencontrer pour produire quelque chose de neuf. Et puis la manifestation du 13 mai 68, c'est-à-dire cette manifestation à l'appel de l'UNEF, bien sûr, des syndicats enseignants et des grandes confédérations ouvrières, qui ouvre la voie à la grève générale, sans qu'aucune confédération n'ait appelé à la grève générale. Donc la manifestation est quelquefois capable d'amener des forces en lutte à prendre conscience de leurs forces et de se servir de leurs forces pour faire quelque chose d'autre.
Alors j'appelle Pierre Lantenac. Pierre Lantenac. Pierre Lantenac.
Tous les ouvriers devraient apparaître.
Allô, Pierre Lantenac.
Allô, à toi.
L'antenne ? Oui, tu l'as.
Pierre Lantenac ici. Je suis toujours
rue Saint-Jacques, et je dois dire que la tension, qui tout à l'heure déjà était très grande, cette tension n'a pas baissé. Les étudiants sont en train de relever une autre barricade à l'intérieur de la rue Saint-Jacques afin d'éviter d'être tombé. Quant à la rue du Sac, eh bien je crois que c'est là.
C'était une nouvelle diffusion de l'entretien avec Daniel Tartakovsky du 26 octobre 1999. Merci à tous et à toutes. Si vous voulez des informations précises pour la grève de jeudi, lieu de manifestation et horaire, vous pouvez aller sur le site www.29janvier2009.fr. Toutes les informations sont disponibles évidemment sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Ronan Mahé et Stéphane Poitvin. Réalisation Coy Nguyen et Raphaël Moutarde. Assistante Charlotte Perry. Chef du répondeur Agnès Lebot. Et le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.